L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour et bienvenue dans votre émission L'AJT du local sur l'autre radio. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 avril et je suis ravie évidemment de vous accueillir à nouveau dans cette quotidienne. Salut Claire.
Salut Marie, salut tout le monde, toujours en direct à Laval, en visio, mais tout près de toi, ne t'inquiète pas.
Évidemment, l'important c'est que tu sois avec nous, qu'on t'entende. Pour les auditeurs, bon, si on doit légèrement entendre quand même le fait que ce soit en visio, mais évidemment, en direct, ça ne change pas. Au sommaire de cette émission, on va parler d'une Lavalloise de 22 ans qui participe à son premier festival de cinéma, de court-métrage pour être précis. Marion Lenormand va nous présenter son film Double Jeu, en course pour le Nikon Film Festival. Autre étudiant aussi qui se lance sur un autre projet, pour le coup ils étudient à l'Estaca à Laval. Ils se sont lancés dans un défi écolo, technique et humanitaire puisqu'ils vont transformer un buggy thermique en buggy électrique pour participer à l'Africa Eco Race, ce sera en 2023. Et puis en fin d'émission, on terminera avec le feuilleton de cette semaine auprès des collégiens de Jean Rostand à Château-Gontier qui ont participé à toute une semaine autour de la danse et de la vidéo avec le réalisateur Arnaud Ray et la danseuse Marie Chély.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, les chiffres de l'épidémie continuent d'augmenter.
On compte 224 cas pour 100 000 habitants en Mayenne, ce qui est pourtant le taux d'incidence le plus bas de la région selon l'Agence régionale de santé. 5,4% des tests sont positifs et le nombre de personnes hospitalisées est en hausse légèrement. Elles sont 67 dont 8 en réanimation.
Avec la fermeture de certains commerces, pourquoi ne pas envisager le prix de main-d'œuvre ?
Laval Économie organise demain à 8h un web atelier sur le sujet. Une entreprise peut avoir recours au prêt de main-d'œuvre pour éviter le chômage partiel en cas de baisse d'activité. L'employeur met alors des salariés à disposition d'une autre entreprise pendant une durée déterminée, notamment via la plateforme lavalclickandcollab.fr. Inscription au web atelier prévu demain au 02 43 49 86 00.
Un incendie a causé le Vivien hier après-midi.
Les flammes se sont déclarées dans un pavillon de la commune au lieu-dit Les Fauvelières à cause de panneaux photovoltaïques. La toiture de la maison a été entièrement détruite et ses occupants ont dû être relogés, mais on ne compte heureusement aucun blessé.
Nouvelle mobilisation pour les AESH demain en Mayenne.
L'intersyndicale de la fonction publique 53 soutient, je cite, les revendications légitimes de salaire, de conditions de travail et de statut portées par les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Elle appelle à un rassemblement ce jeudi à midi à Laval devant les services académiques de l'éducation nationale à la cité administrative.
Une distribution alimentaire pour les étudiants aussi à Mayenne.
Une épicerie sociale étudiante est implantée sur le campus de Laval depuis 2 mois maintenant. Et en complément, une distribution de denrées alimentaires sera organisée désormais à Mayenne chaque mercredi de 16h à 18h dans les locaux de la Croix-Rouge, rue de Château-Trompette. Le tout pour soutenir les étudiants mis en difficulté par la crise sanitaire.
L'exposition « Océan et mer plastifiée » prolongée jusqu'au 21 mai.
Elle devait être vue au mois d'avril par près de 2500 élèves. Avec la fermeture des écoles depuis vendredi soir, l'exposition de l'expédition MED « Océan et mer plastifiée » à la salle Choiseau d'Azé sera finalement prolongée jusqu'au 21 mai. Le concepteur de l'exposition, Bruno Dumontet, pourrait intervenir lors du prochain Prestival Info en novembre 2021, si le contexte évidemment le permet.
Des fleurs offertes aux personnes âgées pour fêter le printemps.
Une initiative du CCAS du pays de Château-Gontier qui a donc décidé de distribuer des fleurs aux bénéficiaires de ses services d'aide à domicile et du portage de repas. Les roses et autres fleurs sont accompagnées d'une carte des élus et d'une autre des membres du conseil municipal d'enfants où ils posent des questions à leurs aînés. Plus de 200 habitants vont en bénéficier.
Et le foot, nouvelle défaite pour les Tangos.
Et oui, ils se sont inclinés hier soir contre le SC Bastia, 1-0 malgré quelques occasions. Le stade Lavallois descend donc à la 12e place de National. Claire, toi tu as rencontré une Lavalloise qui participe à un festival.
Et oui, Marion Lenormand est Lavalloise et a réalisé son premier court-métrage pour le Nikon Film Festival. Le festival récompense plusieurs courts-métrages avec des prix du public, des médias, de la photographie et surtout le grand prix du jury qui offre un kit appareil photo Nikon et notamment aussi une bourse de résidence avec le CNC de 3000 euros. Le thème des films est imposé, c'est le jeu, J-E-U. Marion nous explique le choix de son titre double jeu, J-E, cette fois-ci.
Ça a à voir avec la psychologie. Quand on parle de je en psychologie, on parle du moi. Et le moi, c'est le fonctionnement psychique, c'est notre moi propre. Le je avec la personnalité et son moi qui est scindé en fait en deux. Donc le clivage, la métaphore du clivage qui scinde en fait nos pulsions, nos désirs, nos réactions et nos pensées en deux, en bon ou en mauvais. C'est l'histoire d'un jeune couple, d'Antoine et de Léa. On comprend assez rapidement que c'est un couple dit toxique, entre guillemets, comme on peut en voir dans l'actualité souvent maintenant. En fait, Antoine est très insécure émotionnellement et psycho-affectivement. Et c'est ça, en fait, qui provoque son ambivalence et ses changements d'humeur très soudains. Ses changements d'humeur et ses actions sont répercutées sur Léa, malheureusement. Et on comprend que c'est pas toujours facile de quitter cette relation parfois, voire même souvent conflictuelle. Je suis étudiante en psychologie et j'ai toujours adoré en fait tout le milieu artistique. Donc j'ai fait plusieurs années de danse et je suis encore actuellement à ma 15e année de piano. Et entre-temps, j'ai touché un peu au théâtre et par des stages de théâtre et de mise en scène qui m'ont énormément plu. Je me suis dit pourquoi pas inventer des histoires. Et quand j'ai commencé à écrire des scénarios, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'y aille et que j'en fasse des films. Par les stages que j'ai pu faire, où j'ai rencontré ces situations-là. Et ça m'a permis de plus comprendre le fonctionnement psychique des personnes en insécurité et sur un plan émotionnel. Donc, je me suis dit, ça peut amener les gens à mieux percevoir l'autre, en fait, des expériences qu'on a pu avoir dans le passé, qui nous ont du coup forgé ce fonctionnement psychique, du coup une carapace entre guillemets avec une ambivalence et un clivage très fort dans nos réactions et dans nos pensées. Très petite équipe avec très peu de budget, deux comédiens, un ingénieur son, un chef opérateur, c'est une très petite équipe par souci de budget. Et pourtant, on a fait, je pense, du bon boulot. C'est quand même mon premier film, alors je ne m'attendrais pas du tout à avoir quelque chose. Déjà, ce serait une énorme reconnaissance. J'aimerais beaucoup pouvoir vivre aussi de la réalisation. Et puis, c'est surtout un très grand encouragement et une poursuite après dans le milieu artistique, je l'espère.
Pour soutenir le film, rendez-vous jusqu'au 11 avril sur le site du Nikon Film Festival, rubrique « Films les plus vus » et cliquez pour soutenir Double Jeu.
C'est bien noté, merci beaucoup Claire pour ce reportage et cette interview réalisée donc de Marion Lenormand. On a donc jusqu'au 11 avril, c'est ça, pour voter pour le Nikon Exactement. Film Festival. On va revenir en tout cas d'ici quelques minutes pour vous parler justement d'un autre projet mené là aussi par des étudiants mais complètement différent. On laisse de côté le film et on va prendre un peu nos outils et surtout tous nos cerveaux de réflexion pour transformer un buggy thermique en buggy électrique, le tout pour participer à l'Africa Eco Race en 2023. On en parle d'ici quelques minutes après avoir écouté Smokey Joe and the Kid avec Zazu.
The BBC would like to announce that the next scene is not considered suitable for family viewing. It contains scenes of violence involving people's heads and arms getting chopped off, their ears nailed to trees and their toenails pulled out in slow motion. There are also scenes of naked women with floppy breasts.
Shouts out to Smokey Joe on the button. Thank you for the my love for swing genre music a second time. Recognize talent and see soap, but then it's right. Say it with me, the revolution will not be televised. For a party filled with vibes, I just hope it's practically guaranteed when I have the microphone. The only way that I'll slip off is if Sage a little drunk, and I think we all know what that's like. I reckon getting drunk is definitely not a bad move. It's time to hit the bar inside the club you brought your cash to. So buy a drink, grab a girl, make sure she's staring at you, and let her know you're about to show her how to do this. That's you're thinking, what's a Zazu? It's a man, then a woman, then a moment that just grabs you. At first, you're feeling slash, slightly awkward, kind of bashful. You can't control the urge, it just feels like your body has to. Close contact, hold them tired, by the way, it's two bodies, one motion, grand ride the base. And if I can slip in, one thing that I'd like to say is that nobody can do the Zazu quite like the stage. This is my kind of rave, it's bare happy people with smiles on their face. And there's a girl in here, I like, I got my eyes on the way. So we'll bust a groove until we see the light of the day. Sip your brandy, glass of wine for the ladies, everything is dandy. Fuck it, buy the girl an ivory if you think she's biting. Just make sure you don't wake up regretting that you slammed it. Yes, then, this is now living the moment. Yo, swinging the sexy waist, guys, swinging their shoulders. I'm party on for days, never thinking it's over. We'll see the sun and move again, we'll drink until we're sober. Currents until it's over, let's believe this when it's cold. No one knows how to do this, as you just feel it in your bones. It gets your blood boiling, even in the freezing cold. It's the best feeling on the planet, people know. That's why it's been an honor standing here to hold my own. Been blessed with a beat sent to me by Smokey Joe. Now it's seen the sound of deep, my how the scene is also grown, so we turn the volume up until the speakers overload. You've been a pleasure to rap to. Now that I've explained, I'm glad you all know how to say.
Ladies and gentlemen, but don't think the party stops there.
Now that's who says.
Zazu de Smokey Joe and the Kid sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local et un pari un peu fou qui se sont lancés, donc une vingtaine d'étudiants d'ingénieurs à l'Estaca à Laval. Ils veulent transformer un buggy thermique en véhicule électrique pour traverser le désert et se préparent pour un rallye humanitaire et écolo en 2023 jusqu'à Dakar. Ils plongent déjà sur le véhicule en tant que tel. On fait le point avec l'un de ces étudiants.
Donc, je m'appelle Axel Rouxeville, je suis étudiant en deuxième année à l'Estaca et donc je suis responsable communication du projet Sahari, qui est un projet mené par un groupe d'étudiants de l'Estaca. Donc l'Estaca, c'est une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports. Donc l'un des campus se situe à Laval et donc l'école propose différentes filières qui sont l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire et le spatial.
Et donc ce projet Sahari, du coup, quand est-ce que vous êtes vraiment engagé justement dans ce projet-là ?
Alors je me suis engagé au début du projet, c'est-à-dire il y a à peu près un an. Et donc le projet est assez récent pour l'école, comme voilà, ça fait un an qu'on a commencé. Et l'objectif est donc de transformer un buggy thermique en un buggy électrique pour participer à différentes courses de rallye.
Ah, donc ça c'est l'objectif en tout cas. Maintenant, une question très simple, comment on fait ?
Alors comment on fait ? Il y a différentes étapes. La première, ça va être de dimensionner la propulsion électrique. C'est une grosse étape qui va nous demander beaucoup de temps de recherche, et donc que ce soit de la recherche pour le dimensionnement de la propulsion ou la recherche de partenaires pour nous aider dans ce projet. Donc ça c'est la première grosse étape qui va nous permettre de rendre roulant le véhicule, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. parce qu'en effet, le véhicule nous a été fourni par un partenaire sans le moteur et la boîte de vitesse, comme c'est un véhicule thermique à la base, et ça va être à nous de concevoir tout le système de propulsion électrique.
Et donc justement, là, j'imagine que vous êtes aussi dans une phase de test, d'expérimentation ?
Alors oui, les phases de test et d'expérimentation vont venir en fait un tout petit peu plus tard. On est surtout pour l'instant dans une phase de recherche et de compréhension du véhicule en fait.
Sachant que vous êtes combien à travailler sur ce projet et quelles études est-ce que vous faites ?
Alors sur ce projet, on est actuellement une vingtaine d'étudiants. Nous sommes donc tous en école d'ingénieur à l'ESTACA, dans la même école. C'est un projet qui va nous apporter en fait différentes compétences techniques ou d'autres compétences qu'on ne développe pas forcément dans notre école. Par exemple, des compétences en communication qui sont très importantes tout de même pour le métier d'ingénieur. Et donc, c'est un projet qui est intéressant aussi à ce niveau-là.
Donc là, par rapport au calendrier, si on prend un petit peu chronologiquement, donc le projet a commencé il y a un an. Là, vous en êtes, vous êtes dans cette phase donc de recherche. L'objectif ensuite, c'est d'arriver où et de faire. Quelle sera la prochaine étape ?
Alors, donc la prochaine étape à court terme, c'est de rendre le véhicule roulant. Après, à moyen terme, d'ici un peu moins d'un an, ça va être de commencer. Les premiers tests donc qui vont se faire via des barras qui sont des courtes épreuves tout terrain et qui vont nous permettre de tester à la fois le véhicule et de mettre en place les automatismes pour l'équipe histoire de former les étudiants à la gestion d'un véhicule en compétition. Ensuite, à long terme, l'idée c'est de participer en 2023 à l'Africa Eco Race, qui est une course de rallye qui part de Monaco pour arriver à Dakar, au Sénégal, en passant par l'Italie, le Maroc et la Mauritanie. Et donc, ça va être la grande aventure de ce projet.
Oui, c'est vraiment pour ça, en tout cas, que vous travaillez sur ce véhicule. Quelles difficultés est-ce que vous pouvez rencontrer là, en ce moment, pour justement transformer ce véhicule thermique en un véhicule électrique ? J'imagine que, enfin, c'est logique, hein, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer là comme problème ?
Alors, les principaux problèmes qu'on va pouvoir rencontrer, ça va être d'une part des problèmes d'ordre technique qui vont nécessiter l'intervention de différents partenaires, donc qui vont être des entreprises spécialisées dans le domaine de la propulsion électrique, par exemple, qui vont pouvoir en fait nous apporter différentes compétences techniques que nous n'avons pas pour l'instant. Et une autre problématique qui va s'imposer à nous, ça va être la problématique financière. Et donc, c'est pour cela que nous sommes actuellement en recherche de partenaires pour nous aider à financer ce projet.
Et donc, si justement on est intéressé, comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Vous pouvez nous contacter par l'adresse mail du projet, qui est sahari@estaca.eu, donc sahari@estaca.eu, ou alors via notre compte Instagram ou notre compte Facebook.
Donc il y a aussi forcément cette phase de recherche de partenaires pour avancer aussi dans le projet. Donc ça vous permettra quoi justement de vous équiper ? Qu'est-ce que ça permettra en tout cas si on participe au projet ? Qu'est-ce que ça peut vous permettre concrètement ?
Alors ça va nous permettre de modifier le véhicule. Donc le véhicule qui nous a été livré, c'est un véhicule de série. Et donc pour le transformer aux normes imposées par la FIA, donc et la FFSA, donc différents organismes qui gèrent les contraintes techniques dans le milieu de la compétition automobile. Donc il va falloir voilà adapter notre véhicule aux différentes contraintes qui sont fixées par ces organismes. Et donc ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de pièces qui sont forcément coûteuses pour un véhicule de compétition. Et donc c'est en ça que principalement vont nous servir les aides de nos partenaires.
J'imagine que c'est pas toujours évident puisque c'est pas forcément un milieu, la course automobile que vous connaissez tous parmi les 20 étudiants. Comment ça se passe justement cette immersion pour l'instant ?
Alors effectivement, non, on n'est pas tous ici de ce milieu. Donc on a la chance d'avoir parmi les étudiants certains qui connaissent plus le milieu que d'autres. On a notamment un étudiant dont le père a l'habitude de travailler sur ce genre de véhicule. Et donc, c'est le genre d'aide qui nous est très précieuse pour comprendre le véhicule et donc pour avoir tout un tas de conseils qui vont pouvoir nous aider à avancer plus vite dans notre projet. C'est une course qui existe depuis longtemps. Et donc c'est un grand défi pour nous d'y participer. C'est une course qui va mettre le véhicule et l'équipe à rude épreuve, mais c'est aussi une très belle course qui transporte de nombreuses valeurs humanitaires et écologiques. Donc ça sera un plaisir pour nous d'y participer.
Puisque donc là, évidemment, votre véhicule sera électrique, mais les autres aussi avec lesquels vous serez en compétition, ce sont aussi tous des véhicules électriques ?
Alors non, pas tous, une grande partie seront encore des véhicules thermiques, mais l'Africa Ecorace propose une catégorie expérimentale qui permet à différentes équipes de venir tester leur véhicule, donc sans prendre part finalement à la compétition au même titre que tous les autres participants. Et donc c'est une catégorie qui nous intéresse tout particulièrement.
L'idée c'est quand même que ce soit... Alors, je ne sais pas quel nombre d'ailleurs, mais un certain nombre d'étudiants qui ensuite pilotent la voiture et participent à la course. J'imagine que la vingtaine d'étudiants qui travaillent sur le projet ne pourra pas y participer en tant que tel, mais...
Alors, effectivement, tous les étudiants ne pourront pas y participer en tant que pilote, mais on va avoir besoin d'énormément de main-d'œuvre pour tout ce qui concerne la maintenance du véhicule et la gestion de la compétition sur place qui va demander quand même un bon nombre d'étudiants présents tout au long de la course.
Justement, cette course, elle se présente sous quel format ?
Alors, elle se présente sous la forme d'un rallye, donc qui est une épreuve tout-terrain, donc qui se passe principalement en Afrique, donc à savoir sur des pistes parfois compliquées pour des véhicules classiques. Et certaines portions de la course se dérouleront également dans du sable, donc ça demande une certaine préparation au niveau du véhicule.
Et ça devrait durer, donc forcément c'est une course, donc on ne peut pas trop savoir, mais 2-3 semaines à peu près ?
Oui, environ, exactement. C'est la durée de la course. Ouais.
Vous parliez de course humanitaire, de quelle manière ?
Alors, de différentes manières. L'Africa Ecorace, par exemple, distribue chaque année 500 lampes solaires aux étudiants africains. Donc ça leur permet d'étudier plus tard le soir et donc elles viennent remplacer les lampes à pétrole qui sont majoritairement utilisées en Afrique. Et ça permet également un rejet de CO2 et donc un air plus sain dans les habitations. De notre côté, on va également faire des sensibilisations au développement durable au niveau des différentes écoles, des villes qui seront traversées par la course.
Qu'est-ce que ça vous a déjà, en tout cas vous personnellement, apporté ?
Alors, ce que ça m'a apporté, c'est déjà différentes compétences au niveau communication. Alors, je dirais pas que je m'exprime encore parfaitement, notamment à la radio, mais c'est vrai que ça permet de prendre confiance, en tout cas d'un certain côté. Et ça permet également de développer différentes compétences techniques qu'on n'aurait pas eu l'occasion de développer dans d'autres situations.
Par exemple, c'est vraiment en complément de ce que vous pouvez faire ailleurs, en cours ou autre ?
Exactement, le terme complément est très bien choisi. Donc tout ce qu'on voit en cours, ça va concerner en fait le côté théorique de ce qu'on peut rencontrer sur ce projet. Et donc, ça va vraiment nous permettre de mettre en pratique tout ce qu'on apprend à l'école. C'est en ça que le projet est justement très enrichissant. Alors, l'exemple que je pourrais vous donner, ça va être une problématique qu'on rencontre actuellement. Pour rendre plus stable le véhicule pendant les courses, on va devoir l'élargir. Et donc, l'élargissement du véhicule, ça va faire intervenir différentes contraintes au niveau du châssis. Et donc, c'est ces calculs de force, notamment, qu'on va travailler de manière théorique à l'école et qu'on va pouvoir mettre en place au niveau de la pratique lorsqu'on va devoir élargir le véhicule pour préparer nos courses.
Ça vous prend d'ailleurs, j'imagine, pas mal de temps aussi sur votre temps libre ou à côté. Vous vous retrouvez régulièrement ? Comment ça fonctionne ?
On a la chance d'avoir un local associatif à l'école où on a énormément de matériel pour travailler sur le véhicule. Et donc, on se retrouve par petits groupes d'étudiants pour avancer progressivement sur le projet.
C'est vrai que l'ESTACA, et c'est bien, on relaie aussi quand on peut, a beaucoup de projets associatifs étudiants. Pourquoi vous avez choisi celui-ci ? Qu'est-ce qui vous parlait le plus ?
Alors, ce qui me parlait, c'était le côté innovation du projet. Donc transformer un véhicule thermique en un véhicule électrique, ça me plaisait beaucoup. Il y a un côté écologique qui me parle beaucoup dans tout ça et des valeurs humanitaires assez profondes. Et donc comme c'est un projet qui se forme, c'était aussi important pour moi d'y participer dès le commencement.
Budget total de ce projet, près de 140 000 euros sur 3 ans. Pour suivre son avancement ou soutenir l'association Sahari, rendez-vous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Sahari, je précise, ça s'écrit S2AR-E. On revient d'ici quelques minutes, d'ici 4 minutes pour être précis, le temps d'écouter Talk is Cheap de Jameson.
Make sure you bring some money with you.
That talk is cheap, yeah.
Talk is Cheap de Jameson sur l'autre radio. Et c'est désormais l'heure de la chronique Un autre écho de l'écho proposée par Swazik qui revient, vous le savez, tous les 15 jours le mardi. Une chronique d'autant plus d'actualité aujourd'hui qu'elle est consacrée à la recherche des vaccins et à leur financement. Bonjour Swazik, alors aujourd'hui vous nous parlez vaccin. Pourquoi, alors que la France était pionnière en termes de vaccins du 19e au 21e siècle, pourquoi Sanofi et l'Institut Pasteur n'ont-ils pas réussi à entrer dans la compétition mondiale de la recherche pour le vaccin contre la Covid-19?
Eh oui Marie, quelle question! Surtout que si on reprend l'histoire, en septembre 2020, Sanofi annonce qu'elle est à un cheveu de trouver un vaccin. 3 mois plus tard, le 11 décembre, le groupe annonce que le vaccin n'est pas fiable chez les plus de 50 ans, car les dosages de protéines ne seraient pas bons. Des vaccins sous-dosés, une erreur de débutant selon les chercheurs de Sanofi. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Comment se fait-il que le fleuron de l'industrie française, leader mondial dans le domaine des vaccins, se soit fourvoyé à un si faible niveau de recherche? Alors, selon Anne Perrault, membre du Conseil d'analyse économique, le retard français de Sanofi n'est guère surprenant. En effet, il y a 20 ans, Sanofi, ou plutôt Aventis à l'époque, s'occupait des patients. Depuis que ce sont des fonds d'investissement qui gèrent l'entreprise, les patients se sont transformés en clients. Quand on parle de patients, on soigne tout le monde, alors que quand on parle de clients, on soigne ceux qui ont les moyens d'être soignés. L'entreprise prend de moins en moins de risques pour éviter de perdre de l'argent et se concentre sur ce qui rapporte. C'est ainsi qu'en 2019, Sanofi abandonne la recherche sur le diabète pour des recherches plus rentables telles que les cancers. Dans le même temps, toujours en vue de maximiser la rentabilité, les big pharma, c'est-à-dire ces quelques laboratoires pharmaceutiques mondiaux, ont externalisé la recherche-développement vers des start-up plus souples, qui, elles, supportent tous les risques en cas de flop, mais qui rapportent gros en cas de succès. C'est ce qu'on a avec l'alliance Pfizer et BioNTech, la start-up allemande. Dans ce modèle, les start-up cherchent et trouvent, et les labos mastodontes s'occupent de la production et de la commercialisation à grande échelle. Dans ce cas, il faut donc un appareil de recherche attractif couplé avec des financements puissants et rapides. En quelques semaines, Moderna a reçu $1 milliard du gouvernement américain. La start-up nantaise Valneva, oui Marie, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit la start-up nantaise, Saint-Herblain exactement, qui est aujourd'hui sur le point de mettre au point un vaccin, a été financé, tenez-vous bien, par le gouvernement britannique. Pour une start-up nation, c'est quand même un comble. D'autant que pour la petite histoire, Marie, vous ne pourrez pas vous faire vacciner par le Valneva, car les Britanniques gardent pour eux toute leur production.
Mais alors pourquoi ça marche ailleurs et pas chez nous?
Eh bien, plusieurs raisons expliquent ce flop magistral. Alors tout d'abord, ce modèle suppose des liens très étroits entre les laboratoires, les start-up et les universités. Or, en France, ces relations sont de mauvaise qualité. Chacun joue dans son coin, on ne se parle pas, voire même on se méprise un peu. Il y a aussi le problème de la rémunération des chercheurs. En France, elle reste bien plus modeste que dans les autres pays de l'OCDE. 1 800 € par mois en début de carrière pour un bac plus 8 ou 10 et 2 700 € au bout de 10 ans. Vous comprenez que les chercheurs français s'expatrient sans hésiter dans des pays qui ont plus de moyens. Et puis, la stratégie de Sanofi est aussi parfois peu compréhensible. Imaginez, en 6 ans, 5 plans sociaux, les chercheurs sont passés de 7 000 à moins de 4 000. Le nombre de sites est passé de 12 à 4. Et pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours, comme la fermeture du site de Strasbourg. Je vous explique. En 2018, le site de Strasbourg se réoriente vers l'oncologie, soigner les cancers, et finance un département de recherche à la pointe, bénéficiant de très gros investissements. Les biologistes se sont formés pendant des mois afin d'atteindre le niveau requis pour faire ce type de recherche. Tenez-vous bien, en février 2020, Strasbourg ouvre. Et le 28 juin de la même année, Sanofi annonce la fermeture pure et simple du site et le transfert de toutes ses activités vers le site de Vitry-sur-Seine. Alors on imagine le désarroi des chercheurs et l'énorme perte en compétences. Pourtant, en 2020, Sanofi annonce avoir fait un bénéfice net de 12 milliards d'euros, soit 4 fois plus qu'en 2019. Et Sanofi a distribué 4 milliards d'euros aux actionnaires. Donc, vous voyez, il y a une stratégie difficilement lisible. Et puis enfin, il y a l'État qui subventionne l'entreprise pour plus d'un milliard d'euros en 10 ans. Donc, ce sont nos impôts, Marie, à vous et à moi, hein, dont une partie d'ailleurs pour la recherche sur les vaccins, et l'État ne contrôle absolument pas l'utilisation de cette manne financière.
Alors, finalement, quelle est la morale de cette histoire ?
Eh bien, la morale, elle est double, je crois. D'une part, contrairement à ce que nous dit la théorie économique en vogue aujourd'hui, ce qu'on appelle les néoclassiques, la recherche de profit ne rime pas forcément avec l'obtention de l'efficacité. Et d'autre part, cela met l'accent sur la perte de vitesse de la France dans la compétition mondiale. On trouve des vaccins chinois, russes, américains, allemands, anglais et même belges. Il n'y en a aucun français. Au pays de Pasteur, je crois qu'il est grand temps de se poser les vraies questions.
Merci beaucoup, Soizic, pour cette nouvelle chronique. On vous retrouve dans 15 jours, donc, pour un nouveau sujet. Et cette semaine, alors que les écoles sont fermées, on zoome sur les beaux projets mis en place au collège Jean Rostand à Château-Gontier. Il y a quelques jours, des élèves de 5e ont participé à un projet de spectacle de danse africaine et de captation vidéo, le tout pour arriver à 12 minutes de court-métrage, mêlant insertion de plans et chorégraphie de danse réalisée par les élèves. Une semaine intense, mais sous le signe du partage, selon le réalisateur Arnaud Ray, qui a accompagné les collégiens toute cette semaine.
Déjà des cours théoriques, en effet, autour de la prise de vue sur les valeurs, les axes de plan, et également la technique en elle-même d'apprendre, en effet, d'aller dans le menu de la caméra, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, de travailler, en effet, sur des aspects techniques liés au diaphragme, par exemple, à la balance des blancs, ils n'en avaient évidemment pas entendu parler avant, à la focale, qu'est-ce qu'une focale, comment aller chercher un plan serré, un plan large, et en définitive, là, passer de la compréhension d'un travail à plusieurs caméras, à un montage finalisé de spectacle. Il y a un des jeunes, j'ai l'impression, qui a envie, là, depuis cette semaine, maintenant, d'aller vers les techniques liées au son et à l'image. Donc c'est génial, ça révèle aussi peut-être des talents cachés. On a abordé plein d'aspects, là, en l'espace de simplement 3 jours, parce que le premier jour, on a travaillé vraiment sur tout ce qui est insert image, image-son, pendant le spectacle. Donc on a travaillé sur l'animation graphique. Ils ont fait des dessins, ils ont pris des photos de ces dessins. On a fait des incrustations d'images, on a fait des animations. Et on a travaillé sur l'aspect lumière, donc ils ont travaillé avec une console lumière, ils ont travaillé sur la console de son, ils ont projeté pendant le spectacle les inserts images qu'ils avaient travaillé le mercredi. Donc c'est hyper complet comme programme.
Alors bonjour, je suis Marie Shelley, on m'appelle aussi Shelley Alone en musique. Et Marie Shelley, c'est la chorégraphe, la danseuse. Ce sont des ateliers de création, donc c'est beaucoup d'improvisation dans le cadre. Madame de la Tour du collège Rostand a travaillé avec les élèves sur un thème. Donc j'ai regardé quand même le conte, c'était le garçon Tam Tam. Et puis après, donc j'ai eu des petites idées, et puis après je les ai complétées avec les élèves, avec les capacités, avec tout ce qu'on pouvait dire aussi sur ce conte. En musique en tout cas, parce que c'est le garçon Tam Tam, et en danse, parce que la musique et la danse c'est lié. Alors le premier atelier c'était un peu timide, et c'est les cinquièmes, on n'est pas toujours bien dans sa peau. Et puis le deuxième jour, c'était magnifique parce qu'il y a eu un temps de respiration aussi. Et puis j'ai vu les bras se lever comme moi, en même temps que moi et tout. Et j'ai trouvé ça magique, j'ai trouvé ça beau. Et puis après, donc, ça m'a permis de continuer et puis de les emmener toujours un petit peu plus loin en construisant le petit spectacle. Ils ont assuré parce que c'est pas facile de se placer sur une scène, de sortir, de rentrer. J'ai vu des libérations d'esprit, de corps, comme ce que la danse peut donner en fait.
Ce petit film restera un beau souvenir pour cette semaine pour les collégiens. L'artiste Marie Shelley devrait être aussi présente lors du prochain Festival des Reflets Africains en octobre pour une conférence dansée sur la danse africaine, évidemment. C'est l'heure des initiatives avec toi, Claire, et on est mercredi, et normalement, mercredi, c'est jour des sorties cinéma.
Et oui, et pour pallier le manque, l'association Atmosphère 53, association de cinéma qu'on connaît bien ici à l'autre radio, a créé une série de vidéos intitulée « Interview Canapé Rouge ». Le concept « Donner la parole aux bénévoles de l'association », trois vidéos sont déjà sorties. Annick, Jean-Louis et Jacqueline nous racontent leur mission, l'histoire de l'association, mais aussi leur expérience avec le cinéma sur ce fameux canapé rouge, à découvrir et redécouvrir sur leur page Facebook Atmosphère 53.
Atmosphère 53 qui d'ailleurs en fait proposait l'atelier collège cinéma dont on a entendu le feuilleton juste avant, donc le lien aurait été facile à faire, je le fais du coup à la fin. On continue dans les vidéos et on s'abonne à une chaîne YouTube pas comme les autres, Claire.
C'est celle de Suzanne Grudet et Cécile Guinéo, 82 et 81 ans. Les deux mayonnaises ont installé un fond vert dans leur garage et partagent leurs créations sur YouTube, des créations autour de la musique, de lecture de textes, de création de fonds animés où elles se téléportent dans des musées par exemple. La prochaine vidéo sera sur le théâtre qu'elles ont pratiqué plus jeunes. N'hésitez pas à les suivre donc sur leur chaîne YouTube en tapant Suzanne Grudet, G-R-U-D-E.
Eh bien écoute, c'est bien la preuve qu'en tout cas on peut se lancer à n'importe quel âge, que ce soit sur YouTube et ailleurs. Merci beaucoup Claire. Et tant que vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre en tapant tout simplement l'autre radio, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez aussi et toujours partager vos initiatives grâce à notre répondeur. Il suffit d'appeler au 09 70 40 59 40. Merci beaucoup Claire, c'est déjà la fin de notre émission pour aujourd'hui.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde, on se retrouve demain déjà, j'ai hâte.
On se retrouve évidemment demain pour la JT du local, mais vos émissions préférées se poursuivent sur l'autre radio. À 19h, il y aura Novorama, suivi à 21h de Chaosphère, avec ce soir du Heavy Prog et du Hard Rock dans la playlist. Et nous donc, Claire l'a bien dit, on se retrouve demain à 12h15, je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.